Voilà par exemple un document qui est bien sûr déjà constitué en référence majeure parce qu'il nous est parvenu d'une façon remarquable comme conservation et comme contenu. Il s'agit de l'épopée de Gilgamesh, qui est elle-même l'épopée de Gilgamesh, sumérienne, akkadienne, babylonienne au sens large, si vous voulez, au moment où elle est écrite, où elle est conçue et mise par écrit, elle est déjà, comme ça se faisait souvent, la mise en forme littéraire d'une tradition orale antérieure. Ce n'est pas une œuvre d'auteur au sens moderne, ça n'existait pas. Vous me comprenez, tout comme l'Iliade de Homère, c'est une compilation, si vous voulez, d'une tradition encore plus ancienne. Or, dans cette épopée, nous avons par exemple quelques éléments extrêmement révélateurs de l'ensemble de la connaissance ou de l'attitude, si vous voulez, première, primordiale envers la mort dans les traditions religieuses. Gilgamesh avait un ami qui s'appelait Enkidu. Et à la manière des hippies modernes, si vous voulez, toute proportion gardée, bien sûr, ils partent à l'aventure. Et ils cherchent les performances ou les défis les plus inouïs, les plus outranciers. Alors, à un moment donné, il s'attaque à un animal sacré qui était consacré à la déesse Ishtar ou Aphrodite ou Vénus. Il y a ici de références et de connotations astronomiques, astrologiques très fortes, mais ça ne nous intéresse pas. Et qui était un animal puissant, qui était un animal donc sacré, le taureau céleste, et il s'attaque à lui et le tue. Alors, Ishtar maudit Enkidu qui avait perpétré surtout le meurtre du taureau céleste. Mais lui, ivre de sa victoire, arrache une cuisse et la jette devant la déesse en la couvrant d'injures. C'est un défi qu'il lance à la divinité. L'homme, donc fort conscient de son statut héroïque, qui est celui d'aller jusqu'au bout de plus extrême entreprise, de plus extrême aventure, défie la divinité. C'est le moment culminant dans leur carrière, mais c'est aussi le prologue de la tragédie. La même nuit, Enkidu rêve qu'il a été condamné par les dieux. Le lendemain, il tombe malade et s'éteint après 12 jours. Tout ceci se rapporte aux 12 mois de l'année, aux 12 maisons astrologiques, ainsi de suite, mais ça n'a pas d'importance. Et voici Gilgamesh, qui était son compagnon et son ami, rendu méconnaissable. Après la mort, un changement s'opère à lui, inattendu s'opère en lui. Pendant 7 jours et 7 nuits, il pleure son ami et refuse l'enterrement. Il espérait que ses lamentations finiraient par le ressusciter. Ce n'est qu'au premier signe de décomposition du corps que Gilgamesh s'incline et Enkidu est fastueusement enseveli. Alors Gilgamesh quitte la ville et erre dans le désert en gémissant. Ne vais-je pas mourir aussi, moi aussi, comme Enkidu? Ne vais-je pas mourir, moi aussi, comme Enkidu? Il est terrorisé par l'idée de la mort, les exploits héroïques ne le consolent plus. Dorénavant, son seul but est d'échapper au sort des humains, d'acquérir l'immortalité. Et il apprend que le fameux Utnapishtim, un personnage fabuleux, rescapé du déluge, qui est avant le déluge, qui vient d'un autre cycle de l'humanité, si vous voulez, vit toujours et il est gardien auprès de la source de l'immortalité, de la plante, de la jouvence. Et il décide d'aller le chercher. Et ici commence son voyage initiatique dans l'au-delà. C'est clair ce que je dis? Voilà donc une référence qui est pour la compréhension de cette attitude, de cette tradition archaïque, n'est-ce pas, religieuse, archaïque, est extrêmement précieuse. Toutes les autres religions, les grandes religions constituées, ont chacune à sa manière approfondi et développé cette vision selon les trois lignes de force que nous avons distinguées. Parmi les plus importantes pour notre horizon moderne, peut-être, parce qu'elle y a laissé son empreinte, c'est la religion égyptienne, que nous n'allons certainement pas pouvoir épuiser, où l'au-delà de la mort s'amplifie jusqu'à devenir une sorte d'espace familier, bien jalonné, bien inventorié, avec les prescriptions, les règlements de route, si vous voulez, les codes de passage nécessaires, avec une certaine connaissance. Bien sûr, tout ceci exprimé en langage symbolique, nécessitant donc une interprétation, une traduction et une assimilation vivante de la part de ceux qui l'approchent. C'est clair ce que je dis. C'est pas un langage symbolique, c'est pas un langage terre à terre, mais qui, par la suite, devait marquer l'ensemble, historiquement parlant, de la Méditerranée orientale et influencer même, si vous voulez, la tradition chrétienne. On sait très bien aujourd'hui influencer la tradition chrétienne d'une façon directe, mais indirectement, la tradition chrétienne ne faisait que venir et prendre en charge, c'est sa position, prendre en charge tout le destin de l'humanité quel qu'il soit. Donc c'était très naturel que ces expériences et ces intuitions historiquement antérieure au christianisme, dans la mesure où elle aspirait à être prise en charge, à être assumée par le divin, n'est-ce pas, et trouver leur place à l'intérieur du christianisme. Par exemple, les rites funéraires, quelque peu oubliés dans certaines régions du monde chrétien, mais qui sont encore très présents par ailleurs, les rites funéraires, après la sépulture de ce qu'on appelle les requiem, les offices de requiem avec le terme latin, il y a d'autres termes en grec encore plus près de la tradition primordiale. Le troisième jour, le neuvième jour, le quarantième jour, n'est-ce pas, sont en quelque sorte, encore une fois, représentent l'incorporation de cette tradition primordiale du voyage initiatique de l'âme. Du défunt, de la personne après la mort, et représente autant et marque autant d'étapes dans le devenir. Jusqu'au neuvième jour, il reste tout près de, il reste pas matériellement, mais on pourrait discuter. C'est très curieux. Personnellement, je connais beaucoup de cas incontestables où, en effet, certaines personnes plus sensibles, plus douées, et nullement porté au charlatanisme ou à la fantasmagorie, à la divagation facile, n'est-ce pas, vibrer après le décès de quelqu'un de proche à leur présence. Il y a des cas incontestables pendant 9 jours, pendant une période. Par une période quelconque, disons. Ce qui est sujet à interprétation, même à l'ironie, si vous voulez, tout est permis dans ce monde, mais qui peut aussi poser des problèmes. Après le neuvième jour, on dit, et il y a des écrits chez les mystiques chrétiens, l'âme passe à un autre niveau, où le souvenir de son existence terrestre commence à diminuer, à s'effacer, et elle commence son voyage, cette fois-ci, sur un autre plan de l'être, en compagnie d'autres formes d'existence, par exemple on peut les appeler les anges, ou au 40e jour, même ceci est dépassé, ainsi de suite. C'est un langage symbolique, mais il se peut très bien que cela nous propose un message. Bien sûr, pour le comprendre, comme pour comprendre la topologie, la mathématique supérieure, le calcul matriciel, ainsi de suite, ce n'est pas donné à tout le monde, il faut aussi exercer pour les mathématiques, n'est-ce pas, ou la physique. La même chose pour ce type de langage. Je vous le livre tel quel, n'est-ce pas? Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'avec les Égyptiens, mais c'est déjà présent depuis les temps immémoriaux, l'idée d'une responsabilité personnelle après la mort est nettement présente. Et ceci nous a valu dans le livre des morts, du jugement de l'Égypte, de l'Antique Égypte, des choses, du point de vue culturel, absolument remarquables. Ce qui est très important, c'est que cette responsabilité se réfère au parcours terrestre, à l'activité, à la présence terrestre. Donc, la communication est possible entre un monde et l'autre, entre l'en deçà et l'au-delà de la mort, pour prendre ce terme, dans cette vision. Il y a entre les deux une correspondance. Et quand on trouve, par exemple, dans le livre des morts, « Il a donné du pain aux affamés et de l'eau à ceux qui avaient soif. Il a vêtu ceux qui étaient nus. Les justes sont appelés à l'allégresse de la terre. Je n'ai pas fait pleurer. Je n'ai causé de souffrance à personne. » Ainsi de suite. Vous vous rendez compte combien, à ce point de vue, la mort elle-même, tout en étant pris dans un ensemble qui est cette fois un ensemble de vie, de présence, c'est clair ce que je dis, puisque l'au-delà m'est ouvert en tant que présence, la mort est valorisée dans le sens qu'elle me donne la possibilité de rendre éternellement compte de mon existence terrestre, qui prend une sorte de d'ampleur d'éternité, de valeur d'éternité. C'est clair ce que je dis? On n'a pas. Je vous ai cité ce livre, Le Jugement des Morts. N'est-ce pas? Je l'ai cité dans la. On peut trouver là beaucoup de. Pas tout, malheureusement. Il y a par exemple le fameux livre des morts tibétain, qui s'appelle Bardo Te Deux. Bon, ça n'a pas de problème, excusez-moi. Bardo Te Deux. En tibétain, ça veut dire l'entre deux, qui est, curieusement, on retrouve les mêmes chiffres, 40 jours, 21 jours, 9 jours, 3 jours, pardon. On trouve toujours, ce n'est pas une influence, puisque ce n'est pas une connivence, n'est-ce pas, il ne se télégraphiait pas d'Égypte pour dire ajustons nos livres de mort pour la prochaine édition, ça n'existait pas, n'est-ce pas. Mais bien sûr, dans l'étude comparée de religion, dans l'histoire des cultures, on peut très bien expliquer cela de la façon dont nous avons parlé tantôt. Il y a une tradition primordiale, il y a un premier déchiffrement du mystère de l'être et du mystère du cosmos qui s'est inscrit dans la mémoire active de l'humanité. L'abbé Breuil, par exemple, qui était un. Que vous connaissez, n'est-ce pas, un paléontologue et archéologue, et c'est un des découvreurs des grottes paléolithiques de Lascaux, du midi de la France, avait cette idée, précisément c'est une idée, il parlait, ce que Théard de Chardin devait reprendre plus tard, l'idée mégalithique. Il disait, nous vivons tous encore, quant à notre sens profond de la vie et de la mort, de l'existence, donc, dans le global, nous vivons toujours sur l'idée mégalithique, à l'intérieur de l'idée mégalithique. Autrement dit, de ce premier, encore une fois, cette première lecture, ce premier déchiffrement du monde que nous associons à la civilisation mégalithique. Vous comprenez? Et qui est très mystérieuse, très curieuse, mais qu'on peut quand même étudier. Donc dans le Bardo Te Deul, par exemple, en tibétain, Bardo Te Deul veut dire livre de l'an entre deux. Entre deux. Entre la vie terrestre et le stade ultime au-delà du parcours, au-delà du cheminement, de la réintégration dans le divin, si vous voulez. C'est clair ce que j'ai dit ? Entre les deux, il y a ce parcours semé d'embûches, de difficultés, qui est en grande partie redevable de ce que nous avons fait sur la terre, de ce que nous avons été exactement sur la terre, dans la mesure dont nous avons acquis ou non une certaine connaissance, une certaine sensibilité profonde et totale de l'être. Et c'est décrit avec pas seulement un langage très parlant, symboliquement extrêmement riche, mais avec aussi une curieuse science expérimentale qui a fait de ce livre une des références les plus importantes de la science de la psychologie des profondeurs ou de la psychanalyse de type jungienne, Jung. Psychologie, une alchimie, psychologie à la chimie, à la découverte de l'âme. Vous savez les œuvres de Jung qui se réfèrent très souvent au bardo teudel. C'est une sorte de symbolique, de poétique, ou si vous voulez, de la mort en tant que science expérimentale. On peut employer ce terme. Je voudrais finir cette brève référence quant à l'attitude religieuse, n'est-ce pas, en signalant quelque chose d'assez peu connu, vraiment très peu connu, même par ceux qui s'y rattachent, à savoir les Juifs. Dans la religion juive, par exemple, l'au-delà était encore très confusément perçu, mais ça ne nous intéresse pas. Mais il y avait, à un moment donné, une sorte d'intuition nouvelle qui est surgie avec la révélation prophétique quant à au sens sacré de la mort. En général, pour la religion légaliste, la religion sacerdotale, toucher un cadavre, c'était déjà dans les prescriptions de l'ancienne loi mosaïque, oui, c'était devenir impur. Il fallait tout un ensemble de rites de purification. Or, à partir d'un certain moment, on voit surgir, mais ça n'a malheureusement jamais prévalu à l'intérieur de la tradition respective, une prescription de grande signification, de grande beauté, je dirais, appelée miséricorde de vérité, quant au devoir premier de donner sépulture à un corps abandonné ou à l'étranger. Le corps abandonné, c'était la plupart du temps le corps de ceux qui n'avaient pas d'intégration sociale et familiale. C'est pour cela que, par exemple, entre guillemets, le prix du sang récolté par Judas, vous vous souvenez, vous voyez ce dont je parle, le prix du sang, les 30 deniers que Judas a, ont été utilisés par les responsables du peuple juif, dit l'Évangile, pour acheter un terrain destiné à la sépulture des étrangers. C'est très beau, c'est très significatif. À Keldama, le terrain du sang, la terre du sang. À Keldama, le domaine du sang. Parce que les étrangers étaient ceux qui étaient abandonnés à leur mort. Ils n'avaient pas d'intégration, c'est clair ce que je dis ? Ils étaient abandonnés à la miséricorde, et non pas au droit, à la loi, mais à la miséricorde, qui est encore une fois, une catégorie purement religieuse, c'est évident, spirituelle, plus exactement. C'est ni la philosophie, ni la science médicale qui peut prétendre, et ce n'est pas leur affaire, n'est-ce pas, à me parler de miséricorde, à exiger, à proposer une attitude de miséricorde. C'est clair ce que je dis. Alors, vous savez que dans la prescription légale de la loi judaïque, par exemple, on parle d'une miséricorde de paix, qui est même présente dans le rituel de la liturgie chrétienne. Miséricorde de paix. La miséricorde de paix, le sacrifice de louange. Vous vous souvenez dans le rite byzantin, par exemple, on le trouve encore aujourd'hui. Ou encore la miséricorde de louange, celle d'un office, de l'office religieux prescrit. Or, plus grand que tout cela, dans un certain texte hébraïque, il y a la miséricorde de vérité qui dit, même si le jour le plus saint de l'année liturgique hébraïque, il est le jour du pardon, du Kippour, le jour du pardon, hein, le grand prêtre, en se dirigeant vers le temple pour accomplir la miséricorde de paix, la miséricorde de louange, rencontre un cadavre abandonné d'étranger, il doit accomplir la miséricorde encore plus grande, celle de vérité, l'enterrer avant que de se rendre au temple, il ne sera pas impur. C'est assez curieux. Et on peut comprendre, alors peut-être, comme un élément d'exégèse, ça n'a pas été étudié, je ne trouve pas, pourquoi le Seigneur, dans la parabole du Samaritain miséricordieux, vous vous souvenez cela, reproche aux Lévitiques de ne pas avoir accompli cette miséricorde de vérité, plus grande que la miséricorde légale. Vous me suivez? Et ça nous introduit de nouveau dans ce domaine du sacré de la mort. Bien. Avec ceci, disons sans prétention, l'humanité se trouve à peu près philosophiquement, religieusement, mythologiquement, rituellement, se trouve à peu près aux alentours du surgissement du message chrétien, de l'apparition du Christ, qui vient précisément d'emblée se situer au centre de notre thématique. Car son message est, selon les termes même de ce qu'il veut transmettre, c'est un message de résurrection avant tout. Ce n'est pas un message moral, ce n'est pas un message doctrinal, c'est celui d'un signe unique, dans le double sens du terme, qui ne sera pas répété, qui ne peut pas être répété, et qui ne peut pas être l'apanage de quelqu'un d'autre. Lui-même le dit, il ne sera fait qu'un seul signe, qui est le signe de Jonas, le signe de la résurrection, vous vous en souvenez. Bon, bref, il s'agit de voir, d'approcher, éventuellement de restituer dans un langage conceptuel, le sens de la mort à l'intérieur de la révélation christique. Ce qui est en premier lieu frappant, c'est que dans le Christ, en tant que personne vivante historiquement et exprimant sa conscience de soi et de sa fonction, on trouve l'évidence du fait que la mort est l'affaire de Dieu. Toute autre vision ou toute autre conception, sans être nullement fausse en soi, ne peut être que partielle, provisoire, ou avoir une valeur ou un signe d'espoir. Mais la mort, en tant que réalité totale, s'étend au-delà de toutes ces approches humaines, y compris l'approche religieuse ainsi que nous l'avons parcourue, tout en les englobant, plonge sa signification propre dans un domaine qui est réellement, effectivement, celui de l'œuvre de Dieu. C'est la première chose à retenir lorsqu'il s'agit de considérer la révélation christique face à la mort. La mort est donc à situer carrément à l'intérieur de l'œuvre de Dieu. Dans quel sens? en tant qu'incompatibilité. Il n'y a pas, selon la révélation du Christ, en Dieu de pensée ou, pour parler comme les psychanalystes aujourd'hui, de pulsion de mort. On ne peut pas imputer à Dieu, nous parlons de la révélation christique, n'est-ce pas, une raison quelconque, fût-il celle de la plus grande, du plus grand outrage imaginable de la part de la créature par rapport à Dieu. Je ne veux pas la mort du pécheur, ne faisons pas ici de référence. Vous en souvenez, Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Dieu, je dis de repentir, revenir à la vie, pardonner 70 fois 7, ainsi de suite. Bon, en faisant bref, on peut dire que ce qui est assez curieux, c'est que le Christ pose carrément cette affirmation qui est assez révolutionnaire. Il y a incompatibilité, je dirais même, en utilisant une expression quelque peu barbare, une incompossibilité. Dieu ne peut pas composer avec la mort, et la mort ne peut pas composer avec avec Dieu, ne peut pas rester ensemble. C'est clair ce que je dis ? Il n'y a pas de pulsion de mort en ce Dieu que le Christ révèle et qu'il prétend incarner. Dieu et la mort sont incompatibles, incompossibles. Alors, deuxième aspect, quand même, la mort existe, et dans la vision christique, on peut retrouver, là, encore une fois, la confirmation à un niveau autrement suprême de tous les pressentiments de la tradition religieuse, même parfois philosophique et autres, antérieures, n'est-ce pas ? La mort ne se réduit pas face à Dieu au simple accident de l'usure du composé terrestre de l'homme ou de la création, c'est clair. Mais la mort étant sa signification première dans une sorte, encore une fois, de traumatisme, d'accident, de catastrophe. Au-delà du parcours purement naturel et cosmique de l'être, par où, entre Dieu et l'homme, il y a eu une sorte de rupture, de détour. De détour. C'est clair ce que j'ai dit ? Oui. Entre Dieu et l'homme, il y a eu un détour. Enfin, quelqu'un a tourné le dos à l'autre, pour parler très vulgairement. Une rupture. On ne peut pas beaucoup insister ici, mais je pense que c'est déjà peut-être assez clair dans la quantification. Car si nous avons pris cette prémisse, n'est-ce pas ? Dieu est vie. Il n'y a pas en lui pulsion ou trace de mort. Ce serait, dans la perspective de la révélation du Christ, ce serait une sorte de contradiction. La preuve, dit-il, c'est que moi-même, je suis venu, non pas pour juger le monde, non pas pour juger le monde, autrement dit pour accomplir une œuvre de rigueur, de punition, c'est clair ce que je dis ? Mais pour le sauver, il n'y a que, en Dieu, il n'y a que œuvre de vie. Si c'est ainsi, quand même la mort est là. Elle ne peut être, on le comprend déjà, je ne peux pas insister beaucoup, n'est-ce pas ? Beaucoup nous attarder là-dessus. Elle ne peut être donc que la résultante, la conséquence d'une certaine rupture de l'influx de vie, de la communication de vie qui s'est faisée entre Dieu et l'homme, les deux étant différents par nature. Nous avons donc, en premier lieu, ce qu'on pourrait appeler la nature ou l'être, deux êtres, la distance qui implique la communication entre la nature humaine et la nature de Dieu, ou entre l'être humain et l'être de Dieu. C'est clair? L'un n'étant que vie, l'autre étant virtuellement susceptible de mourir. C'est clair? Mais pas tenu à mourir, puisque tant qu'il est ouvert à Dieu, qui n'est que vie, il ne peut pas avoir de mort dans l'homme. Donc si ceci a eu lieu, si la mort s'est introduite, elle s'est introduite non pas en tant que phénomène naturel de la nature de l'homme, puisque celle-ci était destinée en tant que création de Dieu à lui rester, à rester ouverte l'un face à l'autre, un face à face. C'est qu'à un moment donné, un visage s'est obscurci, un visage s'est détourné de l'autre. Et que ce qui s'est produit alors relève d'un autre aspect que celui de l'être, qui est celui de la liberté. Ça, c'est une vision spécifiquement et strictement christique ou chrétienne. La mort, est le résultat d'une aliénation, d'un éloignement, d'une aliénation au sens fort. Ma propre nature, dans la mesure où j'ai détourné mon visage, autrement dit, j'ai pris une autre orientation, où je donnais à ma liberté une autre direction que celle première de reconnaître le visage de Dieu. Et la source de la vie, je me suis aliéné à la fois de cette source de vie et je me suis aliéné à la fois de ma propre destinée, qui était celle de rester en vie et d'accomplir une œuvre de vie. Inutile de vous dire que c'est cela que, vulgairement, on présente, pas faussement d'ailleurs, on présente comme péché. Péché originel. Donc, cette rupture, cette catastrophe de l'aliénation, aussi très significativement, cette aliénation nous poursuit jusqu'aujourd'hui, lorsque les philosophies, les idéologies, dont l'idéologie marxiste, après Hegel qui en a fait une grande consommation, n'est-ce pas, lorsqu'ils veulent décrire une œuvre négative, une œuvre de mort, autrement dit, c'est l'aliénation. L'aliénation de la classe ouvrière par les capitalistes, l'aliénation des peuples colonisés par les impérialistes. Vous me comprenez? On reste quoi qu'on en fasse, n'est-ce pas? Même ceux qui disent que nous n'avons rien à faire avec l'Église, avec la foi, ils parcourent le même, c'est assez curieux, ils parcourent le même chemin d'analyse et de compréhension. C'est vrai ce que je dis? Parce que l'aliénation est considérée comme une œuvre de mort. Et en voici les racines, nous parlons culturellement et historiquement. En voici les racines de cette première aliénation qui a introduit la première mort. C'est ça? Bien, donc c'est une œuvre de liberté. Et voici un second obstacle entre l'homme et Dieu. Le premier n'en étant pas un. Le premier, la nature, la différence de nature, la différence d'être, loin d'être un obstacle, c'était un lien. Tant que je suis différent, je suis encore plus proche. J'ai la possibilité d'être beaucoup plus proche. Si nous étions un sans distinction, nous serions, c'était identité, il n'y a pas de deux. Mais là où il y a communication de vie, où il y a donc lien de réciprocité, d'amour, il faut être différent. Mais la différence n'est pas un obstacle. C'est clair? Alors, l'obstacle intervient avec cette aliénation, l'aliénation de la liberté, qui elle-même résulte en mort. En me détournant à la fois de ma référence première de vie et de ma propre destinée libre, je retrouve alors les limites de mon être en soi, non pas pour Dieu ou pour l'être, mais pour moi, qui est un être limité, épuisable, usable, et qui est donc destiné à la mort. Si vous vous souvenez des analyses de Heidegger dont nous parlions, n'est-ce pas, et de Kierkegaard, vous voyez combien la philosophie occidentale est quand même importante pour cette compréhension, être pour la mort. Et, mais la mort, dans ce cas-ci, tout comme l'angoisse dont nous parlions, a un double sens. Un sens négatif, elle est le signe de mon malheur essentiel. Nous l'avons suffisamment dit. C'est le néant qui essaie vainement d'envahir l'être, et puisqu'il ne peut pas, il avale successivement tous les êtres individuels. C'est clair ce que je dis. Et moi, être individuel, lorsque je m'éveille à cette conscience du néant en moi, alors je perçois cette angoisse dont nous parlions l'autre jour, qui a un double sens, vous vous en souvenez, négatif, n'est-ce pas, puisque c'est la trace du néant, c'est l'invasion, la montée du néant, mais qui a un sens positif, puisqu'elle me ramasse de la dispersion de l'inconscient, de l'insouciance, de l'indifférence, n'est-ce pas, et me permet de prendre conscience de ma condition authentique. C'est clair? Et deux. Mais ceci également se réfère à la première révélation christique, n'est-ce pas, qui dit la mort est donc négative, c'est le malheur absolu. C'est le malheur absolu, pas seulement au sens limité et petit du terme, ce qui me fait mal, que ce soit psychologiquement, physiologiquement ou spirituellement, mais c'est le malheur absolu, puisqu'elle obscurcit l'œuvre de Dieu et en quelque sorte l'être de Dieu, l'être même de Dieu avec qui je devais être en communication. La mort, c'est la trace d'un échec de Dieu. Et cet échec de Dieu est assumé en la personne du Christ par Dieu lui-même. Il dit, toute son apparition, toute son existence est finalisée par la mort. Cependant, cette mort, qui est ainsi le malheur absolu, dans cette perspective, puisqu'elle marque l'échec de Dieu, de l'œuvre de Dieu, a aussi un sens positif entre les limites de la condition créée du cosmos, de l'être naturel. C'est que s'il n'y avait pas la mort consommée à l'intérieur, dans la condition concrète où nous sommes, après cette aliénation première, c'est clair, lorsque la mort est entrée dans le monde, si la mort n'opérait elle aussi son œuvre sur le plan, comme nous avons dit, de chaque être vivant, c'est clair, elle ne peut pas détruire totalement l'être, étoile, galaxie, arbre, humain, une fois pour toutes, pour laisser le néant à la place. Elle ne peut pas le faire instantanément, puisque alors ce serait elle serait investie d'une puissance et d'une fonction qui est celle de la parole créatrice de Dieu. Dans la révélation, pas besoin de vous rappeler, nous n'avons pas le temps, dans la révélation, c'est pour ça qu'il dit Dieu a créé le monde, il ne s'ébranlera pas, ne sera pas ébranlé. La parole, car il repose sur la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est une parole de fidélité. La parole de Dieu n'est pas rétractée. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Donc, la mort ne peut pas être un anti-Dieu absolu, accomplir totalement et absolument sa fonction en disant que Dieu a dit que le monde soit, que la lumière soit. La mort ne peut pas dire que les ténèbres soient ou que le néant soit. N'est-ce pas? La mort ne peut que parasiter l'être, n'est-ce pas? Le détruire individuellement. Mais ceci faisant, la mort a un sens positif dans la condition malheureuse où nous sommes. C'est qu'elle se détruit elle-même. Elle ne peut pas régner. Elle ne peut pas régner absolument. Elle doit reprendre chaque à chaque instant son œuvre destructrice avec chaque être individuel. Mais ceci faisant, n'est-ce pas, la mort disparaît avec cet être individuel. Elle va reprendre un autre l'instant d'après ou demain. Mais il y a donc un moment ou une période, une durée de combat, de tension entre la vie et la mort, où la mort, qui est le signe, la trace du malheur absolu, est aussi celle qui empêche, de par son œuvre, qu'elle règne, s'empêche elle-même de régner absolument. Elle ne peut que régner successivement, provisoirement, à l'intérieur d'une existence individuelle, nous l'avons dit. Or, voici donc le Christ qui dit, dans toute la révélation, est finalisée tant à une fin, autrement dit, qui n'est pas celle d'une doctrine, qui n'est pas celle d'une parole, qui n'est pas d'une parole proférée, n'est-ce pas, mais qui est celle d'un signe, d'un événement, qui est prise, qui est le centre de toute son œuvre, et qui est la résurrection. Comprend deux choses ici. Peut-être quelque chose qui va un peu à l'encontre de notre sens banal, commun, sur la résurrection. Nous avons toujours tendance à limiter la résurrection à l'événement en soi, tel que notre imagination, notre représentation nous le propose.